Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde. Aujourd'hui, édition matinale du vendredi 10 janvier 2025. Voici le sommaire. Les combats dans l'est de la RDC ne cesseront pas tant que les FDLR ne seront pas éliminés. C'est ce qu'a soutenu jeudi le président rwandais Paul Kagame lors d'une conférence de presse. Dans l'est de la RDC, justement, les combats se poursuivent entre le M23 et l'armée congolaise.
Le M23 ne représente pratiquement rien. Vous avez suivi le rapport des experts des Nations Unies. C'est l'armée rwandaise qui est au Congo avec plus de 4000 hommes.
Les précisions du porte-parole de l'armée de la RDC, le général Sylvain Ekenge, à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, 5 présidents américains étaient réunis hier à Washington pour les funérailles nationales de Jimmy Carter, qui repose désormais dans son état natal de Géorgie. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro prête serment ce vendredi pour un nouveau mandat après des mois de tensions suscitées par sa réélection contestée par l'opposition. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré hier jeudi lors d'une conférence de presse que les combats ne pourront cesser dans l'est de la RDC tant que les FDLR ne seront pas éliminés. Il a dit espérer que le changement d'administration en cours aux États-Unis apportera une nouvelle approche à la situation dans la région des Grands Lacs. Yacouba Ouedraogo.
Le président Paul Kagame a déclaré que la nouvelle administration de Donald Trump pourrait apporter un changement potentiel non seulement sur les questions intérieures des États-Unis, mais aussi sur la façon dont l'Afrique est traitée. À plusieurs reprises, l'administration de Joe Biden a accusé le Rwanda de soutenir le groupe armé M23 et demandé au Rwanda de retirer de la RDC le personnel de sa force de défense. Kagame nie la présence du Rwanda en RDC et son soutien au M23, affirmant que son pays était devenu un bouc émissaire pour les problèmes congolais. Le problème de l'insécurité dans l'est de la RDC est causé par de nombreux facteurs provenant de différentes parties du monde, y compris les puissants pays. Il plonge ses racines dans l'histoire de ce pays, de la région et du continent, et remonte même à l'époque coloniale, soutient Kagame, appelant la communauté internationale à encourager le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités face à son peuple. Mi-décembre, une réunion qui devait réunir le président Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tshisekedi à Luanda a été annulée après l'impasse des négociations.
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a achevé jeudi sa traditionnelle tournée africaine des débuts d'année par le Nigeria où il s'est entretenu avec son homologue ainsi qu'avec le président nigérien Bola Ahmed Tinubu. Wang Yi a entamé le 6 janvier une tournée africaine de quelques jours qu'il a aussi conduit en Namibie, au Congo et au Tchad. Pékin est le premier partenaire commercial du continent africain avec 167,8 milliards de dollars d'échanges bilatéraux au premier semestre 2024. Selon les médias officiels chinois, le géant asiatique a envoyé des centaines de milliers d'ouvriers et d'ingénieurs en Afrique et gagné un accès privilégié à ses vastes ressources naturelles comme le cuivre, l'or et le lithium. Le Bénin a de nouveau subi une attaque terroriste mercredi à sa frontière avec le Niger et le Burkina Faso. 28 militaires ont été tués dans un contexte d'intensification des attaques djihadistes dans la région. Jacques Aristide.
L'attaque a été perpétrée il y a 2 jours au niveau du triple point, le nom donné à la région frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, a indiqué à l'AFP une source militaire qui a requis l'anonymat. Nous poursuivons le ratissage. Pour le moment, 40 assaillants ont été neutralisés, a ajouté la même source hier. Les assauts meurtriers dans le nord du Bénin ont augmenté ces dernières années et sont attribués par les autorités aux djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda, venus des pays voisins où ils sont actifs. La région frontalière avec le Burkina demeure l'épicentre de ces attaques. Le Bénin, qui communique peu sur ces violences, faisait état en avril 2023 d'une vingtaine d'incursions transfrontalières depuis 2021. Citant une source diplomatique, l'AFP rapporte que 121 militaires béninois ont été tués entre 2021 et décembre 2024. Actuellement, il est clair que la menace s'intensifie. Plus la situation au Niger et au Burkina se dégrade, plus c'est dur pour le Bénin, a estimé cette même source, soulignant le défi pour l'armée béninoise, toujours en construction de se former, selon elle, tout en étant opérationnelle.
au Tchad, un peu plus de 24 heures après l'attaque contre son palais à N'Djamena. Le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est exprimé jeudi soir pour rendre hommage à ses soldats qui ont neutralisé les individus mal intentionnés, venus selon lui le vitrifier. Pour couper court aux rumeurs, alors que certaines voix de l'opposition ont dénoncé un montage du pouvoir, les autorités ont fait diffuser jeudi soir à la télévision publique nationale les images enregistrées par les caméras de surveillance à l'entrée du palais présidentiel, où l'on voit plus d'une dizaine d'hommes déferler et tabasser violemment deux éléments de la garde présidentielle. Le calme est revenu dès le début de la matinée, jeudi, dans la capitale tchadienne, au lendemain de cet assaut, au motif encore flou, où 18 assaillants et 2 militaires qui gardaient le palais ont été tués, selon le dernier bilan des autorités. Les 6 autres assaillants ont, eux, été blessés. Les avocats de l'épouse et du fils de l'ex-président du Gabon, Sylvia et Noureddine Bongo, ont de nouveau dénoncé les conditions de détention de leurs clients. Ils affirment avoir constaté des marques de torture sur le fils de M. Bongo, renversé par un coup d'État en août 2023. Eric Maniakiza.
Maître François Zimerey évoque des traces de choc électrique sur le corps de Noureddine, tandis que Sylvia Bongo aurait subi des tortures psychologiques, notamment en assistant à la maltraitance infligée à son fils. Les avocats qui ont pu leur rendre visite fin décembre dénoncent des conditions de détention inhumaines, assimilées à de la torture et l'absence d'accès aux droits fondamentaux. Le procureur gabonais a cependant réfuté ces accusations, affirma que les détenus n'auraient pas été torturés. Bien que des sources diplomatiques françaises disent ignorer les allégations de mauvais traitement, les avocats dénoncent une réaction molle face à ce qu'ils considèrent comme une violation des droits fondamentaux. Leur détention contraste avec la situation d'Ali Bongo, assigné à résidence, mais libre selon le gouvernement. Sylvia et Noureddine Bongo sont poursuivis pour des accusations graves, dont corruption et blanchiment de capitaux. Le régime de Libreville les accuse également d'avoir exercé de facto le pouvoir pendant la convalescence d'Ali Bongo après son AVC survenu en 2018.
En Guinée, les autorités de la transition ont sommé jeudi les mouvements politiques sans autorisation administrative préalable de cesser leurs activités. Il est demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités, de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès de notre ministère pour leur existence légale, a déclaré le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Khalil Kondé, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Ces propos interviennent dans un climat tendu. Trois jours après une manifestation de l'opposition qui réclame le départ des militaires au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya, à la tête du pays, a promis dans ses vœux de nouvel an que 2025 serait une année électorale, sans précision sur le calendrier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 5 présidents américains étaient réunis hier jeudi dans la capitale Washington DC pour les funérailles nationales de Jimmy Carter. Le cercueil du 39e président américain, d'abord exposé au Capitole, est retourné dans son état natal de Géorgie pour l'inhumation. Nani Talani.
Le président américain Joe Biden et ses prédécesseurs Bill Clinton, George Bush, Barack Obama et Donald Trump ont tous pris place dans la cathédrale nationale de la capitale Washington pour rendre hommage à Jimmy Carter. Le cercueil de l'ancien président était arrivé le matin à la cathédrale après avoir quitté le Capitole où le public américain lui avait rendu un hommage de mardi soir à jeudi matin. Le président Biden a prononcé l'éloge funèbre sur la demande de Jimmy Carter lui-même qui avait sollicité son ami de longue date pour cette tâche. Carter était un homme droit, a déclaré Biden. Après l'hommage à Washington, le cercueil de Jimmy Carter est retourné en Géorgie, son état natal, où ont débuté les hommages depuis samedi. Un service privé a eu lieu à l'église baptiste de Plains, où il avait enseigné l'école du dimanche, puis un dernier cortège a traversé sa ville natale avant de l'emmener jusqu'à sa résidence. Des avions de la marine américaine ont effectué un survol pour honorer cet ancien sous-marinier qui a été inhumé auprès de sa défunte épouse Rosalynn Carter, décédée en 2023. Les drapeaux resteront encore en berne pendant 30 jours à compter du 29 décembre, jour de la mort de Jimmy Carter.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro doit prêter serment ce vendredi à Caracas pour un nouveau mandat. Après des mois de tensions suscitées par sa réélection contestée par l'opposition, hier, la chef de l'opposition, Maria Corina Machado, dont l'équipe avait dénoncé l'arrestation après une manifestation anti-Maduro, a été libérée après avoir été amenée de force, puis relâchée selon son équipe, une version démentie par le gouvernement qui parle de mensonges et nie l'avoir arrêtée. Les autorités vénézuéliennes ont promis une récompense de 100 000 dollars pour l'arrestation de l'opposant Edmundo González Urrutia, qui s'est exilé après avoir revendiqué la victoire à la présidentielle. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
La croissance économique de la Côte d'Ivoire devrait rester solide cette année, soutenue par les exportations, l'agriculture, les industries extractives, les investissements privés et une consommation élevée des ménages. La production et les exportations d'hydrocarbures devraient augmenter avec l'exploitation du champ offshore Baleine, consortium Eni Petrosi, dont les réserves sont estimées à 2,5 millions de barils de pétrole et 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel, visant un plein potentiel d'ici 2028. Le Nigeria cherche des clients pour son nouveau pétrole brut Utapaté et vise à doubler sa production d'ici fin 2025, passant de 40 000 à 80 000 barils par jour, ont indiqué la ANPC et son partenaire Natural Oil Field Services. Ce lancement fait partie des efforts du pays pour augmenter sa production, longtemps perturbée par des troubles et des vols, malgré son engagement dans l'accord de réduction de production de l'OPEP. Pour terminer, le nouveau gouvernement ghanéen pourrait solliciter un financement supplémentaire du FMI dans le cadre de son programme actuel de 3 ans pour soutenir l'économie, a déclaré le ministre des Finances désigné, Kassiel Atoforsan. Accra cherche également à lever des fonds supplémentaires en collaborant avec d'autres partenaires nationaux et internationaux. Le recours au banc du Trésor et autres n'a pas été très utile, a déclaré M. Forsan.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Amad Diallo prolonge à Manchester United jusqu'en 2030.
Oui, l'annonce a été faite par le club de l'ailier international ivoirien de 22 ans. Le contrat précisera d'Amad Diallo courait jusqu'à la fin de l'exercice 2024-2025 avec une clause permettant au club de le prolonger d'une année supplémentaire. Il restera maintenant à Manchester United jusqu'en 2030. Amad Diallo a porté le maillot des Red Devils à 50 reprises depuis son arrivée début 2021 en provenance de l'Atalanta Bergame. Des prêts successifs, puis une blessure en début de saison dernière ont retardé son envol à Old Trafford. Il a franchi un cap durant l'exercice en cours comme titulaire désormais avec 6 buts et 7 passes décisives à son compteur. Son rendement et sa prolongation constituent un des rares rayons de soleil dans le ciel de Manchester United, 13e de Premier League après 20 journées. La saison a été difficile pour tout le monde, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie et que l'avenir sera vraiment spécial. Je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe et rendre nos supporters à nouveau fiers, a déclaré Amad Diallo.
De leur côté, les Wolves ont recruté Emmanuel Agbadou.
Les Wolves ont annoncé la signature du défenseur ivoirien en provenance de Reims pour une somme estimée à 16,6 millions de livres, soit environ 20,3 millions de dollars. La première arrivée du nouveau manager, Victor Pereira. Emmanuel Agbadou a signé un contrat de 4,5 ans avec une option de 12 mois supplémentaires. Le défenseur central de 27 ans a débuté sa carrière professionnelle à Monasti, en Tunisie, et a fait un passage à Oupen, en Pro League belge. Avant de rejoindre Reims, il a passé les 2 dernières saisons et demie à jouer pour le club de Ligue 1 et a été capitaine de l'équipe cette saison.
Victor Boniface, lui, sera absent lors du déplacement de Leverkusen à Dortmund.
L'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen ne sera pas de retour pour le match de ce vendredi contre le Borussia Dortmund. Victor Boniface n'a pas joué pour les champions d'Allemagne en titre depuis son retour blessé à la jambe de sa sélection avec le Nigeria en novembre. Plus tôt en janvier, le club avait déclaré que le joueur de 24 ans avait subi un petit contretemps dans son rétablissement. Il a besoin d'un peu plus de temps, nous devons être patients pour qu'il revienne à son meilleur niveau, a déclaré son coach Xavi Alonso. Boniface a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive en 10 matchs de championnat cette saison. Le Bayer Leverkusen qui a remporté le doublé coupe championnat tout en restant invaincu sur le plan national la saison dernière occupe la deuxième place de la Bundesliga à 4 points du leader, le Bayern Munich.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. En République démocratique du Congo, les combats se poursuivent entre les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, et les forces armées congolaises dans le territoire de Masisi, dans le Nord Kivu. Selon le porte-parole de l'armée de la RDC, le général Sylvain Ekenge, les rebelles du M23 ont repris Masisi Centre hier jeudi, mais les FRDC ont pu récupérer d'autres espaces autrefois occupés par les rebelles. Le général Sylvain Ekenge a été joint par Antoine Roger Bolamba.
La situation actuelle dans le territoire de Masisi est assez volatile. Le 4, les terroristes rwandais avaient occupé Masisi. Hier, dans la journée, on les a délogés et ils étaient dans les points dominants. Ils viennent encore de récupérer Masisi, Masisi Centre. Et entre-temps, nos hommes sont en train de travailler vers Ngungu. Ils ont occupé la totalité de la cité de Ngungu, ainsi que les points dominants qui surplombent cette cité. Du côté de Sake, ils ont délogé l'ennemi des collines qui surplombent Sake. Et aujourd'hui, l'ennemi a attaqué aussi vers le sud de Lubero. Et nos hommes se sont bien campés. Ils ont repoussé et ils ont occupé quelques positions qu'ils avaient vers le sud de Lubero avant, bien avant Kirumba, dans le secteur de Lubero, là, au sud de Lubero. Voilà la situation actuelle, comme elle se présente. À Masisi, l'ennemi est dans la cité de Masisi, à l'heure où je vous parle. Et le combat s'est poursuivi.
Comment est-ce que le M23 pouvait bien en revenir encore?
Le M23 ne représente pratiquement rien. Vous avez suivi le rapport des experts des Nations Unies. C'est l'armée rwandaise qui est au Congo avec plus de 4000 hommes. Ils ont envoyé des renforts qui sont venus du Rwanda. Et comme ils occupaient des crêtes, on les a délogés, c'était des Famandu ou des Ngungu. Et ils occupaient la crête dominante de la cité de Masisi. Ils sont venus avec des renforts pour bousculer nos hommes. Mais nos hommes ne se font pas berner. Les combats, au moins je vous parle, les combats sont en cours autour de Masisi. Là, les combats sont en cours. Et il y a des violents combats qui se déroulent actuellement au niveau du chef-lieu de Masisi et les alentours. Et ils ne sont pas que là, je vous ai dit qu'au sud du territoire de Libéro, ils ont essayé d'attaquer là-bas, mais ils ont été repoussés par nos hommes.
Général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara dit être désireux de continuer à servir son pays, tout en assurant ne pas avoir pris la décision au sujet de sa candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Il a aussi estimé que son parti compte au moins une demi-douzaine de potentiels successeurs. L'analyse de Christophe Kouamé, joint à Abidjan par Yakuba Ouedraogo.
Il a été clair, analysons ce qu'il a dit. Il dit en substance, quand j'avais souhaité passer la main à une génération suivante, j'ai eu raison de prendre le leadership d'être candidat et d'être président. Et je vous informe que ma santé me permet encore de servir à ce poste. Je pense que à travers les phrases que j'ai prêtées au président Ouattara, nous pouvons dire que le président Ouattara est candidat pour les élections 2025.
Le président Alassane Ouattara a aussi estimé que son parti, le RHDP, a au moins une demi-douzaine de candidats sans les nommer, pouvant être de potentiels successeurs. Et donc, il laisse la fenêtre ouverte.
Les débats pour les présidentielles 2025 qui ont commencé depuis 2 ans et que nous regardons les candidats en face du RHDP, si le RHDP prend le risque aujourd'hui d'aller dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 mois à un congrès pour désigner un candidat, il n'y aura pas suffisamment de temps et d'espace pour se faire connaître ou être élu ou battre les candidats actuels.
Vous parliez d'autres candidats et justement, l'ancien président Laurent Gbagbo a été investi par son parti, le PPACI, même si jusqu'à présent il n'est pas sur la liste électorale. Son ex-épouse Simone Eyvé Gbagbo a annoncé sa candidature. L'ancien Premier ministre Pascal Affine Nguessan a de son côté été investi par le FPI, le Front Populaire Ivoirien. On attend le candidat du PDCI dans la mesure où, à côté de Tidiane Thiam, il y a aussi Jean-Louis Billon. Comment vous voyez justement cette présidentielle d'octobre 2025?
La présidentielle d'octobre 2025 est censée être inclusive si et seulement si tous ces candidats sont éligibles et assurent la liste électorale. Je parle du cas de M. Blegoudé et du cas de M. Gbagbo. Nous ne doutons pas que la sagesse va prévaloir en ce sens que, si vous vous rappelez bien, en 2000 et en 2010, le président Gbagbo a pris une décision particulière pour que le président Ouattara soit candidat. Donc pour nous, l'inscription sur la liste électorale n'est qu'un problème politique et le dialogue politique va le résoudre. À côté de tout cela, ce que nous attendons de cette diversité de candidats, c'est que tout de suite, les candidats passent à leur projet de société et fassent le débat sur le bilan actuel du RHDP qui est le parti sortant. Au niveau du RHDP parti sortant, vous savez qu'on a atteint un certain niveau de corruption, on a un certain niveau de pauvreté, un certain niveau d'accès à l'éducation, à la santé, à l'électricité et tout. Nous attendons que cette pléiade de candidats commence tout de suite à nous dire, dans le cadre précis de la corruption, voilà ce que nous comptons faire, comment nous allons le faire, combien ça va coûter. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est à 58% de son PIB. La dette de la Côte d'Ivoire aujourd'hui pèse 58% du PIB de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, aujourd'hui, les débats, ce sont les personnes.
L'analyste politique Christophe Kouamé, joint à Abidjan par Yacouba Ouédraogo.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, un hommage national a été rendu hier à l'ancien président Jimmy Carter qui repose désormais dans son état natal de Géorgie. Pour analyser les caractéristiques emblématiques de sa gouvernance, Eric Manirakiza a joint l'analyste politique Calvin Dark, directeur et cofondateur de ASICO Communications, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C.
Il a fait quelque chose sans précédent. Normalement, la Maison Blanche, ça c'est le point culminant pour votre CV. Mais pour le président, ancien président Jimmy Carter, pour lui, c'était le point de départ pour une vie historique. Et alors, je crois qu'il est l'exemple pour les présidents de l'avenir. Qu'est-ce que c'est ça, la vie après la Maison Blanche? Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus historique, de plus aider le monde, l'Amérique? Jimmy Carter, il a fait ça.
Et en matière des droits au niveau des États-Unis, quelles sont les grandes réalisations de Jimmy Carter durant les 4 ans?
Il a beaucoup fait, surtout pour la communauté noire, parce qu'il était du sud, de l'État de Géorgie, où il y avait peut-être des moments les plus frappants pour la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Alors, il connaissait très, très bien les tensions d'être dans l'État où le racisme, c'était vraiment une partie du système. Alors, dans les années 70, il a fait beaucoup de choses pour la communauté noire de changer. Beaucoup de choses qu'on voit maintenant, c'est pas donné. C'est parce que lui, il a encouragé la participation des Noirs, surtout au niveau fédéral. Il a aussi encouragé la participation des Noirs dans le processus politique. Il était le premier président après l'époque des années 60 pour la lutte pour les droits civiques. Et je crois qu'il a ouvert la porte pour ce qu'on a vu après, notamment Barack Obama, le premier président élu noir afro-américain. Et alors, pour les femmes aussi, il a encouragé les droits de femmes, surtout pour les droits de vote hors des États-Unis, avec le Carter Center. Ça, c'était un de ses projets, de vraiment protéger le pouvoir de vote, le droit de vote pour tous les citoyens, y compris les femmes. Et je crois que dans les livres d'histoire, ça va être un point très important pour Jimmy Carter. Encore une fois, quelque chose qu'il a fait après la Maison-Blanche.
Et au niveau de son héritage diplomatique?
Jimmy Carter, il a démontré que, bien, pour l'économie aux États-Unis, pour l'inflation, et c'était une époque très compliquée après la chute de Richard Nixon, il n'est pas beaucoup réussi. Mais pour l'étranger, quand il était dans la Maison-Blanche, ce qu'il a fait avec Israël et l'Égypte, et après, quand il a beaucoup, beaucoup travaillé pour la paix, il représentait la force des États-Unis de manière positive dans les élections, dans la lutte contre les maladies. Et je crois que c'est pour ça que le monde se souvient de Jimmy Carter.
Calvin Dark, analyste politique, directeur et cofondateur de Arsico Communications, un centre de réflexion basé ici à Washington, D.C.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Un sujet moins politique pour terminer. En RDC, de nombreuses personnes au teint naturellement foncé préfèrent s'éclaircir la peau en utilisant des produits chimiques, des produits qui peuvent nuire à long terme à leur santé physique et mentale. Reportage de Zanem Neti Zaidi à Goma.
En Afrique, des milliers de personnes optent pour des pratiques cosmétiques afin d'obtenir un teint plus clair. Selon les experts, l'identité culturelle et la pression de la société sont à l'origine de ces phénomènes qui constituent un important problème de santé publique sur tous les continents. Dans l'est du Congo, de nombreuses personnes ont recours à cette pratique et regrettent leur décision par la suite. Delphine Bindou est l'une d'entre elles.
Quand on est jeune et qu'on essaie toujours de se comparer aux autres, on finit par faire beaucoup d'erreurs. J'avais le teint foncé et j'étais proche d'une amie qui était naturellement brune. J'ai donc acheté de lotions pour éclaircir ma peau. Mais aujourd'hui, je regrette trop d'avoir perdu le teint avec lequel Dieu m'a créé.
Dans de nombreux magasins, des produits cosmétiques de Goma, les crèmes de beauté éclaircissants sont les préférés des consommateurs.
Ici en Afrique, beaucoup de gens pensent que l'utilisation des produits éclaircissants fait d'eux des personnes propres. Mais cela ne fait qu'abîmer leur peau. Je suis convaincu que la peau noire est bien meilleure que la peau brune que les gens ont
vue. Le docteur Pascaline Ngolo est dermatologue à l'hôpital Charité Maternelle de Goma. Elle dit que les parents doivent éduquer leurs enfants sur les effets néfastes de la dépigmentation de la peau sur le corps humain.
Actuellement, on a trouvé qu'il y a beaucoup de cas de diabète et à côté de ça, avec les analyses, on a vu que ce sont des produits qu'on utilise, des produits éclaircissants à base de corticoïdes qui donnent ça. Vous voyez que là, c'est déjà un problème. Il y a aussi d'autres complications internes et toujours, nous avons aussi des cas de cancer. Il y a même les études qui ont été faites et on a publié aussi ces études qui montrent que ces produits peuvent donner des complications ou des cancers des ovaires. À part les cancers, il y a la fragilité de la peau, de l'organisme.
Outre les dommages physiques, la dépigmentation de la peau a également d'énormes conséquences mentales, prévient la psychologue Rachel Boutou.
La dépigmentation finit par affecter les personnes sur le plan mental, car progressivement elles ne parviennent plus à socialiser avec certaines personnes qui les avaient connues avant le changement de leur couleur de peau. Elles se retrouvent dans un état de stress permanent face aux nombreuses questions des gens, ce qui les plonge dans la dépression et l'anxiété.
Selon les experts, ces dernières années, les campagnes de sensibilisation se sont multipliées dans la région contre la dépigmentation de la peau, qui conduit de nombreux praticiens à se retrouver à l'hôpital. Zanem Neti Zaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Et c'est avec ce reportage que nous mettons un terme à cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Mfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, www.voaafrique.com, sans oublier nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.
Écoutez. écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali, et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.